Radio Ndeke Luka, le magazine Parlement.
Bonjour à tous, auditeurs de Radio Ndeke Luka, heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de ce nouveau rendez-vous consacré aux activités des élus du peuple. Nous produisons cette semaine le 16e numéro. Il est consacré à la tournée du président de l'Assemblée nationale Moussa Lorangon Baba à Doha au Qatar et à N'Djamena au Tchad pour mobiliser la communauté internationale en faveur de la République centrafricaine. En région, nous allons nous rendre à Bangassou dans le Mbomou. Le collectif des députés de cette préfecture a effectué cette semaine une mission dans le cadre de la célébration du premier anniversaire de l'accord de paix signé entre les groupes armés dans la localité. Ensuite, nous aurons la loi sur la météorologie adoptée cette semaine à l'Assemblée nationale. Notre lexique est le rôle des questeurs à l'Assemblée nationale. Pour vous présenter cette émission, je suis Igor Tchesquin, sénateur au micro à côté.
Joët Bagali.
Nous avons la partie technique Jan Bokula. C'est parti pour le magazine parlementaire de Radio Ndeke Luka. Jean-Eudes, bonjour et bon week-end.
Bonjour Godeskin Sinapai, bonjour à tous nos auditeurs et bon week-end.
Je le disais à l'instant, le président de l'Assemblée nationale Moussa Lorangon Baba et son collègue Andjiba Daguerre, député de Berberati 1 dans la Mambéricadé, ont représenté la RCA début avril à Doha au Qatar dans le 140e Assemblée de l'Union interparlementaire.
Oui Igor, cette rencontre a mobilisé plus de 80 présidents des parlements du monde pour plus de 1600 participants. Les thèmes débattus lors de cette rencontre s'articulent autour de l'éducation pour le renforcement de la paix, la sécurité dans le monde. Moussa Lorangon Baba, président de l'Assemblée nationale.
Je pris part à deux missions. La première mission est d'abord parlementaire. Il s'agit de la 140e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'est tenue à Doha, au Qatar. Il faut dire que c'est une structure qui rassemble le haut responsable, les présidents des parlements du monde entier. Et donc, cette assemblée s'est tenue sur un thème d'actualité, à savoir le rôle de l'éducation dans le renforcement de la sécurité et de la paix dans le monde. Il s'agit en effet de mettre en exergue le problème de l'éducation. Le problème de l'éducation pour permettre à la jeunesse de contribuer à la paix et à la stabilité du pays. Il s'agit surtout de placer le rôle du parlementaire dans ce processus d'éducation, dans le système d'éducation pour le renforcement de la paix et de la sécurité. Le rôle que doit jouer le parlementaire. Les débats ont été eu lieu, des recommandations ont été faites et le thème rejoint ce que nous vivons dans notre pays, la République centrafricaine. Car vous savez, l'ignorance est à la base de tout facteur de non-développement. Et nous devons faire en sorte que l'éducation soit un outil pour la sécurité et la paix. Ce qui est important, il faut noter que cette assemblée a connu un record. Il s'agit de la 140e assemblée. Il s'est trouvé qu'au cours de cette assemblée, il y a eu la présence de 80 présidents des assemblées nationales. C'est un record qui s'est ressenti aujourd'hui au niveau de Qatar. Mais en marge de l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire, en tant que président, j'ai saisi l'occasion pour exercer, mettre en jeu la diplomatie parlementaire en rencontrant plusieurs présidents de l'Assemblée ayant pris part, n'est-ce pas, à cette 140e Assemblée. Je citerai des exemples. Le président de l'Assemblée nationale du Gabon, par exemple, de Burundi, du Mali, de la Côte d'Ivoire, le président du Parlement de la CEDAO, le président de l'Assemblée nationale de la Bulgarie, plusieurs, le président du Sénat français. Nous avons échangé avec ceux-ci pour voir les disponibilités, les possibilités de renforcer la coopération entre l'Assemblée nationale de la République centrafricaine et les différentes assemblées du monde.
La deuxième activité du président de l'Assemblée nationale est sa participation à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États sahélo-sahéliens, CENSAD, la semaine dernière à N'Djamena au Tchad.
Effectivement, cette rencontre visait à relancer les activités de cette organisation sous-régionale suspendue depuis 2013. Moussa Lorangon Baba nous donne des précisions.
Nous avons par la suite remonté sur N'Djamena au Tchad, où j'ai pris part à la session extraordinaire de la communauté des États sahélo-sahariens, CENSAD. Le chef de l'État, son excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra ayant été empêché, il m'a désigné pour le représenter à ce sommet des chefs d'État. À ce sommet, plusieurs chefs d'État ont répondu présents à l'invitation à N'Djamena et nous avons discuté le 13 avril des différents thèmes prévus pour cette session extraordinaire qui était axée sur le fonctionnement de la CENSAD. il est à noter que la dernière session de la CENSAD date de 2013. À ce jour, il n'y a pas eu de session. Il s'agissait donc de relancer la CENSAD à travers les organes de forcement. Et il faut aussi signaler qu'en 2013, à cette dernière session, il y a eu un accord révisé sur la CENSAD. Et cet accord aujourd'hui est rentré en vigueur parce que le nombre de ratifications exigées par le texte est atteint. Il s'agit donc pour cette session de mettre en marche les organes en rapport avec l'accord révisé de la CENSAD. C'est ainsi que des décisions ont été prises par le chef de l'État à ce sommet. Il s'agit de la nomination d'un nouveau secrétaire exécutif de la CENSAD qui revient aujourd'hui au Niger. Il s'agit aussi de la nomination d'un secrétaire exécutif adjoint qui revient au Maroc. Et provisoirement, compte tenu des difficultés que connaît Tripoli aujourd'hui, nous notons qu'il est difficile pour le secrétariat exécutif de la CENSAD de fonctionner. Pour cela, les chefs d'État ont décidé du transfert du siège de la CENSAD, du secrétariat exécutif de la CENSAD à N'Djamena. Et c'est un transfert provisoire. Voilà un certain nombre de décisions que les chefs d'État ont eu à prendre. Nous avons saisi notre délégation de la puissance africaine a saisi l'occasion pour présenter la situation sécuritaire, socio-économique de notre pays, en demandant à tous les États membres de la CENSAD de continuer à apporter l'appui nécessaire pour permettre au gouvernement centrafricain la mise en œuvre de l'accord de paix, parce que après la signature et la constitution du gouvernement inclusif exigé par cet accord, de nombreux engagements doivent être exécutés. Et il faut des moyens, il faut accompagner la République centrafricaine. Dans ce sens, nous avons lancé un appel et le sommet des chefs d'État a fait une déclaration dans laquelle cet appel a été pris en compte pour inviter toute la communauté internationale à accompagner la République centrafricaine dans la gestion de sa situation en ce moment. Ce que vous représentez un chef d'État, c'est-à-dire que le chef d'État a des messages particuliers que vous devez transmettre à son homologue. Et donc j'ai accompli ce devoir de transmettre le message du professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, à son frère, le président Idriss Déby Itno. Et nous avons échangé sur la situation et des échanges qui feront l'objet d'un compte-rendu acquis de droit, notamment à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce qui est important, le chef de l'État, Idriss Déby, a monté son intérêt, a monté son attachement pour accompagner la République centrafricaine.
Cette fois-ci, Igor, nous allons faire une descente à l'intérieur du pays.
Notre unique destination cette semaine est la circonscription électorale de Bangassou dans le Mbomou.
Tout à fait, Igor. Le collectif des députés du Mbomou, dirigé par Aimé Serge Singa Bimba, revient d'une mission parlementaire dans la région pour célébrer le premier anniversaire de l'accord de paix à Bangassou. L'objectif était d'évaluer cet accord de paix et de réconciliation nationale signé par les groupes armés du Mbomou.
Nous avons été à Bangassou pour la commémoration des accords de paix du 9 avril 2018 et aussi pour le lancement de la caravane de paix qui doit quitter Bangassou pour Bangui. Et donc, lors de ce séjour, nous avons profité pour faire des campagnes de sensibilisation auprès de la population. Vous savez, la paix, il faut l'entretenir. Et donc, nous n'avons de cesse de faire en sorte que cette paix-là soit entretenue et que la cohésion sociale qui est revenue à Bangassou puisse continuer à exister entre les habitants de cette ville.
Il fait exactement un an aujourd'hui que les groupes armés du Mbomou ont signé un accord de cessation des hostilités. Quelle évaluation faites-vous de la mise en œuvre de cet accord?
Quand on signe un accord de paix, on espère qu'on va avoir la paix. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que dans la ville de Bangassou, il y a la paix. Et nous avons été agréablement surpris de voir que les musulmans qui étaient confinés circulent, que plusieurs familles ont quitté le site et sont revenus dans leur quartier d'origine. Nous espérons que ça va continuer. Nous avons aussi déploré le fait que les maisons d'habitation qui avaient été détruites, pour l'instant, les habitants n'ont pas bénéficié de projets de reconstruction, alors que dans d'autres villes, cela se fait. Enfin, nous pensons que ça va se régler dans les mois et les jours à venir, parce que les populations qui sont déplacées, quand ces populations reviennent, ils n'ont généralement pas les moyens de pouvoir reconstruire leur maison, et un coup de pouce de la communauté internationale et de la communauté nationale ne peut que faire du bien.
Qu'est-ce que vous avez dit à la population à propos de l'accord de paix et de réconciliation du Khartoum entre le gouvernement et les groupes armés?
L'accord de paix et de réconciliation qui a été négocié à Khartoum et qui a été signé à Bangui le 6 février dernier est un accord national national, c'est-à-dire qui engage aussi la ville de Bangassou. L'accord du 9 avril de Bangassou était un accord local. L'accord de paix signé à Bangui est un accord national qui nous engage tous. En ce qui concerne les populations de Bangassou, vous savez que nous avons commencé déjà avec, depuis un an, à prôner la cohésion sociale. Et la cohésion sociale et le vivre ensemble a droit de cité aujourd'hui. Maintenant, notre souci, c'est de faire en sorte que tout cela puisse être repris par les dispositifs de l'accord de paix de Khartoum. Et donc, nous nous inscrivons complètement dans cet accord de paix. En plus, ce que nous pouvons noter, c'est que Bangassou a été retenu parmi les villes centrafricaines comme l'une des quatre villes où on va y organiser le forum du développement régional. Et donc, pour nous, c'est un plus parce que, vous savez, comme je dis souvent, la paix, son développement est un leurre. Il faut qu'il y ait du développement pour que chacun puisse vivre décemment et pour éviter les manipulations. Et donc, nous allons profiter de ce forum de développement régional qui est un forum qui est véritablement régional, qui ne concernera pas que la ville de Bangassou, mais qui concernera toute la région pour identifier les filières, pour faire en sorte qu'il y ait des débouchés pour toutes ces filières-là. Parce que le tout, c'est pas de dire, vous savez, vous pouvez faire du poivre, vous pouvez faire de la gomme arabique, vous pouvez faire... Non, c'est aussi de trouver les moyens d'avoir des acheteurs qui puissent acheter des produits, hein, des terroirs. Et nous allons profiter de ces accords-là pour effectivement essayer d'avancer dans ce sens.
Une mission conjointe gouvernement Nations Unies s'est rendue à Bangassou lorsque vous étiez encore dans la ville. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette visite des partenaires de la RCA?
Ben, déjà, je pense que nous pouvons remercier les partenaires de la République centrafricaine. Ces partenaires ont toujours été à nos côtés lors de cette crise. Et effectivement, à Bangassou, nous avons remarqué que beaucoup de partenaires étaient là. Il y avait les Nations Unies, il y avait l'ambassadeur de France, il y avait l'ambassadeur des États-Unis. Et donc, pour nous, on dit qu'on connaît ses vrais amis quand on a des difficultés. Et donc, tous ces pays qui étaient là autour du gouvernement pour venir célébrer les accords de paix initiés par son éminence Dieudonné Cardinal Zapala Yinga et l'imam Kobine, tous ces partenaires qui étaient là, ça nous a fait chaud au cœur. Et puis, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que nous avons organisé, avant l'arrivée des autorités, nous avons organisé un match de football avec deux équipes, deux sélections. Et dans chacune de ces équipes, il y avait des chrétiens et des musulmans. Et quelque chose m'a vraiment ému, c'est que dans une des équipes, il y avait un jeune qui était le fils de l'imam qui avait été tué lors des événements, qui était à côté d'un jeune qui est le fils d'un chrétien qui également avait été tué lors de ces événements et qui était vraiment les plus grands amis du monde. Je pense que ça, c'est vraiment un signal fort pour montrer que malgré les difficultés qu'on peut avoir, malgré les ressentiments, on peut dépasser cela.
Les centrafricains étaient intéressés par la loi sur la météorologie adoptée cette semaine par la représentation nationale, suivant leurs avis que nous avons recueillis.
Moi, je pense que c'est très utile pour la République centrafricaine et surtout, comme vous disiez, sur l'agriculture, sur le transport, tout là, ça concourt au développement du pays. Donc, c'est une chose à encourager. Cette loi, nous devons nous appuyer sur cette loi pour avoir des informations fiables sur le futur météorologique. Ça nous donne des informations sur quelque chose, c'est ça.
Une telle loi est vraiment importante, surtout pour notre pays qui a traversé des moments difficiles pendant des temps. C'est une loi vraiment coup attendue par d'abord le centrafricain. Et aujourd'hui, quand notre gouvernement dispose d'une pareille loi, on apprécie.
Moi, je souhaite seulement l'application parce que chez nous, on vote la loi, mais c'est l'application qui pose problème.
Moi, je vois que c'est une bonne idée, même pas concernant les touristes, mais même nous, présentement, dans notre pays, on a subi des modifications des climats, des saisons sèches et des saisons pluvieuses. Exemple, cette année, les gens se sont plaints par rapport au problème de réchauffement climatique et voire même à côté de l'agriculture. Donc, c'est mieux, il faut que le gouvernement implique dans ce système pour qu'il puisse améliorer les calendriers agricoles pour qu'on puisse avoir des bons programmes agricoles.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
C'était la voix des Centrafricains. Maintenant, place à la députée Émilie Béatrice Impaï, présidente de la Commission Affaires étrangères, pour des explications sur ce texte appelé acte constitutif de la conférence ministérielle africaine sur la météorologie à Comète.
Comme vous savez, la météorologie a beaucoup de domaines. Le domaine de la météorologie regarde le transport, l'énergie, l'agriculture, la santé, l'environnement, même la défense et la sécurité. Donc, en ratifiant l'acte constitutif de la conférence ministérielle africaine sur la météorologie. D'après le gouvernement, notre pays va avoir des avantages à travers cet acte pour améliorer le domaine de la météorologie chez nous. Il nous a aussi dit, le ministre, toutes les stations de la météorologie à l'intérieur du pays ont été vandalisées et les équipements sont devenus obsolètes. Donc, à travers cet acte, il pourra avoir des moyens pour reconstruire les infrastructures, équiper les stations et aussi, il y a une partie de renforcement de capacité du personnel. Donc, nous pourrons former des techniciens, des ingénieurs, parce que jusqu'à présent, les ingénieurs de la météorologie proviennent de la SEGNA. Donc, il y a beaucoup d'avantages en matière de météorologie, mais c'est qu'on n'a pas beaucoup investi dessus. C'est le moment ou jamais de profiter de cet acte pour essayer de nous rééquiper et être au même niveau que les autres pays de la sous-région.
Présidente, vous avez parlé de transport de l'agriculture. En quoi ça peut aider pour les agriculteurs? C'est peut-être pour les aider à connaître le temps en fait, de pouvoir cultiver ou c'est comment?
En matière de transport, d'ailleurs, le ministère de tutelle de la météorologie, c'est le ministère des Transports. Et tout le travail que fait la SEGNA, vous voyez la tour de contrôle, c'est les ingénieurs en météorologie qui travaillent là-dedans pour voir le ciel, est-ce que les avions peuvent atterrir en toute sécurité, ainsi de suite.
Vous écoutez toujours le magazine parlementaire de Radio Ndekiluka depuis Bangui, la capitale de la République centrafricaine sur les 100.9 FM. Quel rôle jouent les députés questeurs à l'Assemblée nationale? Des réponses avec Augustin Argou, membre de la commission finance.
Un questeur, c'est comme un contrôleur financier de l'Assemblée nationale. C'est lui qui veille sur les finances de l'Assemblée nationale. C'est lui qui contrôle les activités, les actes de la direction financière de l'Assemblée nationale. Et donc, quand la direction financière monte le budget de l'Assemblée nationale, on soumet au contrôle et à l'approbation de questeur. Il regarde si c'est bon, il valide et il soumet à l'examen du bureau. Quand le bureau valide maintenant, ça revient à la commission finance pour l'examen. Donc, le questeur est considéré comme le contrôleur financier de l'Assemblée
nationale. Ainsi s'achève ce magazine parlementaire de la semaine sur Radio Ndekiluka. Nous remercions infiniment tous ceux qui l'ont suivi. Nous disons aussi merci pour la bonne collaboration avec l'équipe de la communication de l'Assemblée nationale. C'était une présentation de Igor Jeske Senapay
et Jean-Yves Bagali.
À la partie technique, Diane Bokula, portez-vous bien et à la semaine prochaine.